19h30, temps universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 14 mai, en direct du studio 13 à Washington. Au micro, Morgane Guiriec et Chérubin Dorcil. Bonsoir Chérubin.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, Washington annonce des sanctions contre 5 personnalités centrafricaines, dont les ex-présidents François Bozizé et Michel Djotodia.
J'ai dit que dès l'instant où M. Djotodia, que je combattais, a démissionné, ma lutte est terminée. Je m'inscris dans la logique de la réconciliation nationale et de la paix.
On aura la réaction de Lévi Yakété, l'une des personnes visées par les sanctions. Nigeria, le gouvernement serait prêt à négocier avec Boko Haram la libération des lycéennes enlevées le mois dernier.
What we want the most is that our girls come out alive.
Ce que nous voulons le plus, c'est que nos filles s'en sortent vivantes.
En Turquie, les opérations de secours se poursuivent après l'explosion d'hier qui a fait au moins 238 morts dans une mine de charbon. Sans oublier les sports et la musique, mais avant, le journal.
Nous ouvrons au Nigeria où le gouvernement se dit ouvert à des négociations avec la secte islamiste Boko Haram au sujet de la libération des jeunes filles enlevées le mois dernier. Le gouverneur de l'état de Borno a confirmé l'identité de celles qui sont apparues dans une vidéo de Boko Haram. Bagassi Koura.
Kashim Chetima a affirmé à l'issue d'une projection publique qu'il s'agit bien des lycéennes enlevées le mois dernier. Lundi, Boko Haram a publié une vidéo de 17 minutes montrant une centaine de jeunes filles recouvertes de la tête aux pieds par un hijab et assises dans une zone rurale. Pour ce groupe islamiste, elles font partie de près de 300 jeunes filles qui ont été enlevées il y a un mois jour pour jour dans le nord-est du pays. Dans cette vidéo, le leader de Boko Haram, Aboubakar Shekau, demande la libération des combattants en échange des jeunes filles kidnappées. Mardi, un ministre nigérian, Tanimu Tukari, a affirmé que le gouvernement est ouvert au dialogue avec Boko Haram. Pendant ce temps, les recherches pour retrouver les captives s'intensifient. Après les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et Israël, le Canada a annoncé l'envoi d'une force spéciale au Nigeria.
Le président Obama a annoncé des sanctions contre les deux ex-dirigeants centrafricains, François Bozizé et Michel Djotodia. Sont également sanctionnés Lévi Yakété, un proche de Bozizé, et deux ex-Séléka, Noureddin Adam et Abdoulaye Miskine. Les cinq sont accusés par la Maison-Blanche de contribuer aux violences en Centrafrique. La réaction de Lévi Yakété.
C'est vraiment un sentiment de grande déception et de révolte lorsque je vois que c'est des grandes nations qui commettent de telles erreurs et qui accusent quelqu'un comme moi sans en avoir la moindre preuve, mais sur la base des dénonciations calomnieuses, des mensonges cousus en fil blanc. J'ai beaucoup de respect pour le Conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai beaucoup de respect pour la grande nation qu'est les États-Unis d'Amérique. Mais lorsqu'elles se permettent de prendre des décisions à la sauvette sous l'emprise de l'émotion et du mensonge, c'est regrettable. Et moi, en tant que citoyen centrafricain, décidé à défendre mon pays et mon peuple, je reste serein. Je n'ai rien à me reprocher, mais je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour que la vérité triomphe.
Lévi Yakété, coordonnateur politique du mouvement de résistance populaire pour la refondation de la Centrafrique, qui comprend des anti-Balaka et des ex-Faka. Nous l'écouterons plus en détail dans la seconde partie de l'émission.
Entre-temps, la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, a officiellement lancé ce matin un double projet d'appui aux maraîchers et cultivateurs de Bangui et ses environs pour relancer la lutte contre l'insécurité alimentaire. Par ailleurs, le corps de la journaliste Camille Lepage a été ramené à Bangui. Timothée Donangmaï.
Environ 300 millions de francs CFA ont été octroyés par Mme Samba-Panza à la première phase du projet dont les bénéficiaires sont pour la plupart des jeunes et des femmes déplacées des communes de Bangui, Bimbo et Begua. L'objectif, selon la présidente de la transition, c'est de réduire l'insécurité alimentaire. Ailleurs, à l'intérieur du pays, l'insécurité persiste. Aujourd'hui, le représentant de la préfecture de la Kémo, Marcelin Yoyo, est monté au créneau pour réclamer la sécurité et la restauration de l'autorité de l'État dans sa région.
Dans une partie de la Kémo, à savoir la sous-préfecture de Sibut et de Ndjoukou, il n'y a aucune autorité politico-administrative. Depuis que la SELEC a quitté la ville, aucune autorité n'est allée là-bas. C'est pour dire que la population est comme ça. Ce n'est pas quand même un gouvernement du centre-ville de Bangui. C'est un gouvernement de la République. Il devait aller sur le terrain, regarder un peu le peuple. Que vit ce peuple ? En réalité, tout est détruit.
Signalons que le corps de la journaliste française Camille Lepage a été transféré ce mercredi à Bangui. La nouvelle de sa disparition a créé une vive émotion au sein de la corporation, d'autant que deux journalistes centrafricains ont été tués au début du mois à Bangui.
L'Union européenne menace de prendre des sanctions contre les dirigeants du Soudan du Sud s'ils ne respectent pas l'accord signé vendredi dernier. C'est ce qu'indique l'agence France Presse qui cite Alexander Rondos, le représentant spécial de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique. Les sanctions sont prêtes, elles pourront être adoptées si la situation l'exige, a-t-il déclaré devant la presse à Bruxelles. Cet accord signé par le président Salva Kiir et son rival, l'ex-vice-président Riek Machar, prévoit un cessez-le-feu, mais les factions belligérantes sont accusées de ne pas avoir respecté cette trêve. La semaine dernière, Washington a annoncé des sanctions contre deux leaders militaires, l'un issu des forces gouvernementales, l'autre de la rébellion.
Des changements dans le secteur de la justice au Mali. Le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni en session ordinaire. Le procureur général près la cour d'appel de Bamako, Daniel Tessogué, reste à sa place. 119 magistrats ont été mutés ou permutés d'un tribunal à un autre. Les travaux de ce conseil ont été dirigés par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui est aussi président du Conseil supérieur de la magistrature au Mali. Kassim Traoré.
D'entrée de jeu, le président de la République a fait une intervention de 15 minutes. Ibeka a aussitôt insisté sur le maintien du procureur général près la cour d'appel de Bamako, qui, selon lui, est un homme intègre. Au cours de cette session, le conseil a examiné et délibéré le projet portant nomination de 119 magistrats du ministère public et de justice de paix à compétences étendues. Comme l'a souhaité le président de la République, le procureur général près la cour d'appel de Bamako, Daniel Tessogué, reste à son poste. Le procureur de la commune 1 est le magistrat Koïta, alors que Oumar Sogoba vient en commune 2. Alou Nampé, précédemment en commune 2, va en commune 3 du district de Bamako. Mamadou Bandougou Diawara, Suleiman Doumbia et le magistrat Samake sont respectivement les procureurs des communes 4, 5 et 6 du district de Bamako. En plus de Bamako, il y a eu des mutations dans les autres juridictions du pays. Il faut signaler que les mutations de cette session ne concernent pas les présidents des tribunaux, les juges d'instruction et les juges au siège. Dans deux semaines, ça sera la mutation de ceci. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Procès Oscar Pistorius en Afrique du Sud. Le juge a ordonné que le coureur paralympique subisse des tests psychiatriques. Mesure prise suite à un témoignage affirmant qu'il souffrait de troubles d'anxiété, maladie provoquant la peur et l'inquiétude. Rappelons qu'Oscar Pistorius est accusé d'avoir assassiné sa petite amie à son domicile l'an dernier. Il affirme qu'il pensait tirer sur un intrus, mais l'accusation prétend le contraire et parle d'un meurtre délibéré.
Washington, La Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au moins 238 morts, c'est le bilan provisoire de l'explosion survenue hier dans une mine de charbon en Turquie. Le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan s'est rendu sur les lieux de la tragédie où les secours sont toujours à pied d'œuvre. Issa Napan.
Dans la localité de Soma, au sud d'Istanbul, les sauveteurs ont pompé de l'air frais dans la mine où ils essaient d'atteindre 100 à 150 mineurs encore bloqués sous terre, selon un responsable syndical. Le président turc Abdullah Gül a décrété la mobilisation de tous les moyens pour venir en aide aux mineurs. Le Premier ministre, quant à lui, s'est rendu sur les lieux à la tête d'une équipe gouvernementale après avoir reporté un voyage prévu en Albanie. Recep Tayyip Erdogan a décrété 3 jours de deuil national. Près de 800 personnes étaient à l'intérieur de la mine de charbon lorsqu'un incendie s'est déclaré suite à l'explosion d'une unité électrique, selon certains officiels. Les mines de charbon turques sont de plus en plus dangereuses, incitant certains parlementaires à demander une investigation sur les conditions de sécurité.
L'Ukraine organise ce mercredi une rencontre sur le thème de l'unité nationale, un jour après le meurtre de 7 soldats gouvernementaux par les séparatistes pro-russes dans l'est du pays.
Le président intérimaire Oleksandr Turchynov, son premier ministre Arseniy Yatsenyuk, les députés nationaux et les responsables régionaux prennent part à ces assises à Kiev. La rencontre se situe dans le cadre de la feuille de route proposée par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Les rebelles séparatistes ne sont pas présents à ces entretiens. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré aujourd'hui que l'Ukraine est au bord de la guerre civile et que toute solution à la crise doit satisfaire toutes les régions du pays.
Les négociateurs représentant l'Iran et le groupe D6 ont tenu une nouvelle série de pourparlers à Vienne, en Autriche, dans le but de forger un accord durable sur le nucléaire iranien. Ils doivent parvenir à une entente au plus tard le 20 juillet. Cet accord sur le long terme serait la suite de l'accord intérimaire signé en novembre dernier et qui prévoyait des limites aux activités nucléaires de Téhéran en échange d'un certain allègement des sanctions occidentales. En revanche, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine, la Russie, la France et l'Allemagne veulent des garanties que l'Iran ne cherche pas à obtenir l'arme nucléaire.
Regain de tension en mer de Chine méridionale autour de certaines actions de Pékin concernant des territoires en litige. En conséquence, des citoyens chinois résidant au Vietnam ont entamé la traversée vers le Cambodge. Ils fuient les manifestations violentes organisées contre la Chine suite à la décision de Pékin de relocaliser une plateforme pétrolière près d'un groupe d'îles considéré par le Vietnam comme étant dans sa zone économique exclusive.
Une nouvelle collection de 33 lettres de Jacqueline Kennedy, ancienne première dame des États-Unis, révèle certaines de ses pensées les plus secrètes. Ces lettres, écrites au prêtre irlandais Joseph Leonard, couvrent une période allant de 1950 à 1964, donc de son mariage à John Fitzgerald Kennedy jusqu'après son assassinat. La collection sera mise en vente aux enchères le mois prochain et pourrait rapporter plus $1 million. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique, au micro Morgan Yayek et Chérubin Dorsil. Dossier centrafricain, le président américain Barack Obama a annoncé hier des sanctions contre les deux ex-présidents François Bozizé et Michel Djotodia. Sont également sanctionnés par décret présidentiel un dirigeant politique des anti-Balaka, Lévi Yakété, et deux ex-rebelles, Noureddine Adam, ministre de la Sécurité sous Djotodia, et Abdoulaye Miskine, un dissident de la Séléka, Gabi.
Les cinq hommes sont accusés de contribuer aux violences en Centrafrique. Ils verront leurs biens aux États-Unis gelés et seront interdits d'entrer sur le territoire américain. Ces sanctions interviennent 4 jours après celles prononcées par le Conseil de sécurité contre messieurs Bozizé, Yakété et Adam. Joint par la Voix de l'Amérique, le coordonnateur politique du MRPRC, Lévi Yakété, s'est dit déçu et révolté.
Aujourd'hui, on m'accuse d'être celui-là qui était à Bangui le 5 décembre et qui a distribué des maquettes aux anti-Balaka alors que moi, je suis absent de la République centrafricaine depuis le 15 mars 2013. Par quel bâton magique je me suis retrouvé en Centrafrique pour organiser les anti-Balaka et leur distribuer des maquettes. Les anti-Balaka, c'est la population centrafricaine qui s'est révoltée contre la barbarie de la Séléka dont aucune nation au monde n'a osé dénoncer pendant 10 mois, moins les États-Unis d'Amérique, moins la France, qui a demandé aux Nations Unies de nous sanctionner. La Charte des Nations Unies, dans son considérant numéro 2, a dit que le peuple a droit à se révolter contre l'oppression.
Est-ce que vous ne pensez pas que ce que l'on vous reproche, c'est par rapport à une certaine responsabilité, notamment dans votre discours, par exemple ?
Je m'attaque dans mon discours, dans toutes mes déclarations, aux actes de la Séléka. Moi, j'ai considéré au début les anti-Balaka comme des patriotes, tout en condamnant des actes de débordement, des dérives criminelles de certains groupes. Mais j'avais déclaré par la voix des écrits que j'ai envoyé au secrétaire général des Nations Unies, aux membres du Conseil de sécurité, à Mme Powell, qui représente les États-Unis, Mme Samantha Powell, est la copie de ma déclaration. J'ai dit que dès l'instant où M. Djotodia, que je combattais, a démissionné, ma lutte est terminée, je m'inscris dans la logique de la réconciliation nationale et de la paix. J'étais disposé à rentrer à Bangui. Personne n'a voulu accepter ma main tendue. Et je suis en France depuis novembre 2013.
Mais de quelle garantie auriez-vous besoin ? C'est votre pays. Pourquoi ne rentrez-vous pas librement dans votre pays ?
Vous voulez que je rentre à Bangui comme M. Nguessona pour que, aujourd'hui, bon, qu'on a accusé pendant un certain temps d'avoir activé les anti-balakas, qui s'est autoproclamé coordonnateur des anti-balakas, et qu'on oublie aujourd'hui et qu'on se retourne contre M. Yakété ?
Lévi Yakété, un responsable des anti-balakas, était joint en France par Nathalie Barge.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Au Nigeria, les organisations de droits humains élèvent le ton après l'enlèvement de près de 300 jeunes filles par Boko Haram. Pour elles, l'enlèvement des femmes et des filles au Nigeria est un problème beaucoup plus vaste et les ravisseurs ne sont presque jamais punis. Jean-Roger Billon.
Le gouverneur de l'État de Borno, Kashim Shettima, a fait une confession de taille cette semaine. Selon lui, avec l'enlèvement des filles de Chibok le mois dernier, Boko Haram n'était pas à son premier coup dans le genre. Jusque-là, il en avait été simplement empêché. Les populations de l'État de Borno disent que c'est une tradition chez ce groupe de kidnapper les femmes et les filles et de les obliger à épouser les insurgés. L'actrice Dorothée Ndjemanze a échappé de justesse à un enlèvement à Abuja il y a 2 ans, après avoir été battue et agressée.
Now we're here talking about another spate of abductions.
Si nous dénonçons maintenant cette vague d'enlèvement, c'est parce que d'autres ont été passés sous silence. Ils ont été encouragés par le silence du gouvernement et ils sont passés à la vitesse supérieure. Honnêtement, mon cœur est brisé.
Les kidnappings sont également en hausse dans le delta du Niger, la région pétrolière dans le sud du pays, où les activistes sont en rébellion permanente contre les compagnies pétrolières et le gouvernement. L'avocat Félix Obasowan explique que le problème persiste ici, pour la même raison que dans le nord. Même lorsque les ravisseurs sont capturés et arrêtés, ils ne sont presque jamais condamnés, assure-t-il. Une campagne médiatique dénommée « Bring Back Our Girls » a été lancée pour retrouver les lycéennes encore entre les mains de Boko Haram. Le coordonnateur de la campagne, Rotimi Oluwale, insiste sur la sécurité des filles.
Ce que nous voulons le plus, c'est que nos filles s'en sortent vivantes. Après cela, nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement pour nous assurer que cela ne se reproduise pas et que les enlèvements soient réduits au strict minimum.
Le gouvernement nigérian a réitéré ce mercredi qu'il explore toutes les options pour la libération et le retour en toute sécurité des jeunes filles.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, tout sur Boko Haram. Le sort des jeunes filles enlevées par le groupe islamiste nigérian continue de mobiliser la planète. Au-delà du kidnapping, beaucoup de questions demeurent. Vos commentaires sur la page Facebook de Washington Forum. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Nous partons maintenant en République démocratique du Congo. Au Nord Kivu, les femmes de Goma ont trouvé une formule pour éviter le chômage, Gabi.
Elles sont très nombreuses ces derniers jours le long des routes, dans les marchés, devant les boutiques et dans les salons de coiffure, essayant de contribuer tant soit peu à la survie de leur famille. Mais comment ? Reportage de Primo Pascal Rudaïgua depuis Goma.
Le métier de coiffeur attire de plus en plus les femmes sans emploi dans la ville de Goma. Interrogées à ces sujets, quelques-unes d'entre elles reconnaissent qu'elles commencent par apprendre, ensuite elles se perfectionnent pour éviter le chômage.
Ce métier connaît beaucoup de profanes ces derniers temps et cela s'explique par le fait que ces femmes manquent d'occupation. Elles évitent de cette façon de tomber dans des antivaleurs. Eh bien, quand la vie devient difficile, que faire sinon créer des emplois ?
Plusieurs autres femmes préfèrent s'installer le long de la route pour éviter les exigences des tenanciers des salons de coiffure.
Quand nous travaillons formellement, les tenanciers des salons de coiffure sont exigeants envers nous. L'on nous fait payer des pourcentages de l'argent produit ou carrément, l'on nous interdit d'effectuer des activités rentables. Au lieu de nous disputer pour rien, on a résolu d'aller sur la route.
Dans ce travail, elles tiennent également compte de la propreté du milieu et de la santé de leurs clientes pour éviter les maladies contagieuses à travers les objets tranchants.
Nous amassons toutes ces mèches éparpillées devant les boutiques et nous les brûlons. Pour nos matériels comme les guilles, après usage, nous la stérilisons. La lame de rasoir, on l'utilise une fois seulement. Deux fois, il y a des clientes qui refusent que nous utilisions nos matériels. Elles s'en procurent sur place et après usage, les rentrent avec.
Les clientes sont nombreuses et apprécient la qualité du service rendu par ces femmes.
J'ai choisi cet endroit pour me faire coiffer, convaincue du travail de qualité qu'elle me rend. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Les usagers de ces matériels sont moins nombreux. La femme qui me tresse ici fait la propreté de ces peignes.
Avec ce travail de coiffure, ces femmes ne gagnent pas moins de $50 par semaine, soit $200 par mois, ce qui constitue une bonne bourse pour la plupart d'entre elles. Goma, Primo Pascal Rudahigua, La Voix de l'Amérique.
La Cour de justice de l'Union européenne a tranché contre Google dans une affaire de droit à l'oubli numérique, Morgan.
Oui, hier, elle a estimé que le moteur de recherche est responsable du traitement des données personnelles qui apparaissent sur ses pages. Conséquence, les usagers peuvent obtenir la suppression des liens vers des pages Internet comportant des données personnelles. Un arrêt attentatoire à la liberté de l'information, explique Grégoire Pouget, responsable du bureau Média, Nouveaux Médias, à Reporters sans frontières.
C'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que finalement, cette décision, qu'est-ce qu'elle valide ? Elle valide le fait que des utilisateurs, des individus, vont avoir la possibilité de demander à des moteurs de recherche, en l'occurrence dans le cas très précis dont on parle, c'est Google, mais ça va s'étendre à tous les moteurs de recherche. Donc des utilisateurs vont avoir la possibilité de demander à ce que des résultats qui apparaissent lorsqu'ils tapent le nom dans un moteur de recherche soient supprimés de l'index des moteurs de recherche. Donc c'est une forme de censure, c'est-à-dire qu'au nom du droit à l'oubli, au nom de la protection des données personnelles, on empiète sur la liberté de l'information. Les résultats pourront être demandés à être retirés, même s'ils sont légaux, si l'utilisateur les considère comme contraires à ses intérêts. Donc c'est extrêmement vague et beaucoup de contenus risquent d'être désindexés des moteurs de recherche. Alors ils ne disparaîtront pas d'Internet, puisque là où cette décision est plutôt incohérente, c'est que les contenus en question ne sont pas supprimés des sites qui les hébergent, mais juste des moteurs qui les référencent. Autant dire que si le contenu n'est plus accessible, c'est comme s'il disparaissait d'Internet.
Donc vous parlez d'un arrêt attentatoire à la liberté de l'information, mais alors que fait-on du respect de la vie privée ?
Là, on a porté la responsabilité et le respect de la vie privée sur des moteurs de recherche qui ne font que indexer des contenus qui existent déjà. On se trompe de cible, ce n'est pas un intermédiaire technique de faire le tri, ce n'est pas à Google, à Bing, à Yahoo, à qui sais-je, de faire le tri des liens qui les référencent, mais c'est bel et bien au site qui héberge les contenus de faire attention au type de contenu qu'ils hébergent.
Et concernant le droit à l'oubli ?
Alors, le droit à l'oubli, pour Reporters sans frontières, c'est un problème. Le droit à l'oubli, ça, à ma connaissance, ça n'existe pas dans aucune législation. Le droit à l'oubli, qu'est-ce que c'est ? Je ne connais pas. Le droit à l'oubli, en tout cas, le fait de demander à oublier des informations, c'est dangereux parce que quelle est la différence entre la protection des données personnelles et ce fameux droit à l'oubli et finalement la manipulation de l'information ? Là, la limite est extrêmement ténue et je pense malheureusement que l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne a carrément dépassé cette limite.
Grégoire Pouget, responsable du bureau Nouveaux Médias à Reporters sans frontières.
Le monde aujourd'hui, c'est aussi les sports. Bagassi Koura, bonsoir.
Oui, bonsoir Chiroubé, bonsoir à tous.
Ce soir, c'est la finale de la Ligue Europa.
Oui, elle oppose l'équipe espagnole de Séville à Benfica de Lisbonne au Portugal.
À un mois de la Coupe du monde de football, l'entraîneur du Brésil, le pays hôte, a des problèmes.
Oui, le sélectionneur du Brésil, Luis Felipe Scolari, a été mis en examen pour fraude fiscale au Portugal. L'enquête porte sur des faits remontant à la période 2003-2008, quand Felipao était sélectionneur donc du Portugal. La justice portugaise reproche à Luis Felipe de ne pas avoir déclaré des gains de 7 millions d'euros. Selon le journal brésilien Folha de São Paulo, cité par l'agence France-Presse, Scolari a bien sûr démenti avoir commis quelques irrégularités que ce soit.
L'Angleterre, nous voulons parler des dirigeants de l'Angleterre, les dirigeants politiques, ont une façon tout à fait particulière d'encourager, entre guillemets, l'équipe nationale au Brésil.
Oui, l'Angleterre n'ira pas loin, hein. C'est ce que laisse croire un document du ministère de l'Intérieur même de l'Angleterre qui souligne que l'équipe nationale risque de ne pas survivre à la phase initiale des poules au Brésil. Et Chérubin, si vous étiez joueur, je ne sais pas comment est-ce que vous alliez réagir.
C'est tout à fait décourageant quand votre propre pays vous dit que vous n'irez pas loin.
Oui, voilà, autant ne pas mettre les moyens. Et voici la réaction d'un parlementaire de l'opposition travailliste. Il dit que c'est bon de savoir ce que le gouvernement pense des chances de l'Angleterre.
Alors, si en Angleterre, c'est le gouvernement qui est pessimiste, en Allemagne, c'est le public.
Oui, seulement 6% des Allemands croient que leur équipe remportera la Coupe du Monde au Brésil, selon un sondage publié ce mercredi, alors que la Mannschaft, c'est le nom de l'équipe nationale là-bas, fait partie des favoris du tournoi. Seuls 11% des personnes interrogées pensent qu'elle atteindra la finale, selon un sondage de l'Institut Forsa, publié par le magazine Stern. Une grande partie des Allemands, 41%, pensent que la sélection nationale dirigée par Joachim Löw s'arrêtera au stade des demi-finales. Pour 28% d'entre eux, chez Rubin, l'équipe allemande sera même battue dès les quarts de finale.
Cela pourrait aussi avoir, Bagassi, une conséquence positive sur les joueurs et un effet psychologique, les pousser davantage à faire des efforts pour arriver plus loin que prévu.
Oui, c'est possible.
En tennis, le Master de Rome.
Oui, et la nouvelle du jour, c'est bien sûr le Suisse Roger Federer qui a été éliminé donc au deuxième tour du Master 1000 de Rome par le Français Jérémy Chardy en 3-7, 1-6, 6-3, 7-6.
Et parlons des demi-finales régionales de la NBA.
Et hier soir, Oklahoma City, grâce à un Russell Westbrook des grands soirs, est revenu mardi de très loin pour battre sur le fil les Los Angeles Clippers 105 à 104, juste un point de différence, et n'a qu'à une victoire de la finale en conférence ouest. À l'est, Indiana a grillé son premier joker pour se qualifier en finale en se faisant battre à domicile par bien sûr le Washington Wizards 102 à 79 qui reviennent, Washington qui revient donc à 2 contre 3 dans cette série.
Et ce sixième match, c'est pour demain soir au Verizon Center, ici à Washington.
Parions qu'on va gagner encore.
Moi, je ne veux pas parier. On ne sait jamais. Merci, Bagassi.
C'est maintenant l'heure de la musique avec Roger Muntou. Salut Roger!
C'est définitivement pas la musique de Roger. Je sais que Roger apprécie beaucoup cette musique, mais ce n'est pas la sienne.
Non, c'est pas son choix. Ça m'étonnerait que ce soit...
Voilà, alors, et si on écoutait la vraie musique de Roger cette fois-ci?
Salut Morgane. Le Gabonais Pierre Akendegué n'a jusqu'à ce jour pas tout à fait connu la carrière qu'il mérite. Il est pourtant sans conteste l'un des artistes le plus doué et le plus complet de sa génération. Une de ses chansons phares des années 80, Africa Obota.
Come a kei bisebo, bisebo. Uvie, lingileone lingo, lingileone lingo, lingileone lingo ndo bisebo, bisebo. Liberté, non, non, il est Hollande, Hollande, c'est beau. Raoul Incope, en Afrique, n'est qu'à Pangé, unité, Noningo, Noningo, à sa pile, unité, à Kavia Boujéou, à Kavia.
Alors, Morgane, on aime cette musique ou on n'aime pas?
Ah, on aime bien, et toi?
Beaucoup, et Roger Muntou, il faut le rappeler, sera en notre compagnie dans quelques secondes.
Dans le RM Show, exactement.
À 20h, temps universel.
Voilà, bah c'est sur ces jolies notes musicales que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. Joselle Morissin a dirigé la mise en onde. Merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guiriec.
Et Gabi.
À demain.